ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Chers auditeurs de Radio B, je suis très heureuse de vous retrouver à l'issue de cette pause estivale, voire trop estivale à mon goût, car lorsque la chaleur vous accable, il devient même difficile d'ouvrir un livre de poésie et surtout de rester éveillé après la troisième page. Alors, maintenant que la température est redevenue un peu plus acceptable, disons-nous, il est temps de reprendre, avec plaisir pour ma part, et pour la vôtre aussi j'espère, nos lectures mensuelles. Nous allons débuter la saison avec un poète que j'ai eu l'occasion de lire en feuilletant son anthologie personnelle parue chez Gallimard en 2006. Un homme dont j'ai appris malheureusement le décès cet été. Et je me suis dit que cette émission de septembre pourrait être, à ma modeste échelle, une façon de lui rendre hommage. Il s'agit de Kenneth White, d'origine écossaise, né à Glasgow en 1936, mais résident en France depuis les années 60 et plus précisément en Bretagne, à Trébeurden, depuis 1983. Kenneth White qui a donc quitté ce monde le 11 août dernier. C'est un homme qui, en plus d'écrire des poèmes, s'est attaché à réfléchir sur le sens profond de l'écriture poétique. Il parle dans ses essais de « la poésie du dehors », une poésie qui prône l'ouverture à ce qu'il appelait un monde blanc, c'est-à-dire non interprété, hors des définitions établies. Vous allez d'ailleurs vous rendre compte en entendant ses poèmes qu'il utilise très souvent le blanc, le mot blanc, dans sa palette lexicale. Kenneth White a forgé le concept de nomadisme culturel, qui était le sujet de sa thèse en Sorbonne en 1979. Un concept qui juxtapose le voyage et l'exploration intellectuelle. Un concept à la croisée de la poésie et de la philosophie. Une exploration du monde, en quelque sorte. Et ce n'est donc pas un hasard si le titre qu'il a choisi de donner à son anthologie personnelle est justement « Un monde ouvert ». Il se trouve qu'au moment même où je lisais Kenneth White, une pièce entendue sur France Musique a retenu mon attention. Vous savez, ce sont un petit peu des moments de grâce. Vous avez l'agréable surprise d'entendre quelque chose qui fait tilt, sans que vous sachiez toujours très bien pourquoi. Et c'est bien sûr le bonheur de la radio, d'agrémenter votre quotidien de ces petites épiphanies. Ce quelque chose-là, c'était le deuxième mouvement d'un trio à cordes de Jean Cras, 1879-1932, un homme qui a conjugué l'activité militaire et la composition musicale, puisqu'il était officier de marine et, à la fin de sa carrière, major général du port de Brest, avec le grade de contre-amiral. Un Breton, donc, très attaché à son pays natal, comme Kenneth White le deviendra, lui qui va faire de la Bretagne son pays d'adoption. Interrogé sur ses sources d'inspiration, Jean Cras disait ceci : « J'ai passé 30 ans à contempler des horizons vastes, des étendues à la fois uniformes et infiniment variées, des cieux illimités, à respirer des atmosphères vierges, à vivre de grands calmes ou d'immenses tourmentes. J'ai écrit avec une joie profonde certaines œuvres, comme mon journal de bord. Je suis attiré par tout ce qui est poésie délicate et profonde. » Alors, un poète et un musicien également inspiré par l'ouverture sur l'infini, voilà bien deux créateurs qui vont de pair, même s'ils ont vécu à des époques différentes. C'est pourquoi j'ai choisi d'accompagner les poèmes de Kenneth White par différents extraits de pièces de Jean Cras. Écoutons le premier d'entre eux. C'est celui-là même qui m'a accroché l'oreille lorsqu'il est passé à la radio. Il s'agit du deuxième mouvement de son trio à cordes.
Thank you.
Marche matinale. C'était un froid, un lent brouillard agglutiné autour du soleil, accroché au petit soleil blanc. La terre était seule et délaissée, et un grand oiseau jetait son cri rauque de la héronnière, tandis que le garçon s'en allait sous les hêtres, voyant les débris bleuâtres des coquillages et les moites amas de feuilles pourrissantes. Vers l'hiver. Vienne à présent l'hiver. Ciel chargé comme un bœuf, froide écume aux rivières, nudité de la lande, brume dans la forêt, vienne à présent l'hiver. La bleue foulée des bêtes dans la neige qui fond, le soleil fourbi dur, des oiseaux et des baies, l'ombre couleur de bronze, l'eau mince et glaciale, la croûte noire de la terre, l'éclat blême de la roche, vienne à présent l'hiver. Des algues sur la lune, le vent herse le golfe, les îles luisent dans la brume, je pêche dans les eaux froides. Ma barque est noire goudron, et les tolets fourchus grincent sous l'aviron. Vienne à présent l'hiver. Fin décembre, au détroit de Jura. Fougères rouges sur les collines. Pluie, neige et grêle, et pluie encore. Les serres descendent des hauteurs, les lacs sont saisis par la glace. Au ciel, des étoiles bleues. Essayez d'écrire aux amis, mais mieux vaut y renoncer. Levant les yeux, je vois l'île au loin, qui miroite sous un soleil glacé. Héron des neiges. En Chine, au Xe siècle, Xiu Yi peignit son héron des neiges sur un arbre givré. L'oiseau farouche au regard froid, la blancheur du plumage épais se détachant sur le ciel gris, les griffes monstrueuses. Et Chuang Tzu demanda « Que voit-il donc, ce grand oiseau qui s'élève si haut dans le vent ? Est-ce la matière originelle tournoyante en poussière d'atomes ? L'air qui donne vie aux créatures ? Ou la force innommée qui anime les mondes. Sur la branche brisée, le héron, tel l'ombre d'une réponse dans le vent, se balance et fixe intensément le monde questionneur. Lettre à un vieux calligraphe. 100 jours passés par les grèves et les montagnes, à l'affût du héron et du cormoran. Puis écrire ceci à la lisière du monde, dans un silence devenu une seconde nature. Et connaître à la fin, dedans le crâne, dedans les os, le sentier du vide. Mes propriétés pour Henri Michaud. Propriétaire, je suis moi aussi. J'ai 12 arpents de silence blanc tout au fond du cerveau. Les textes que vous venez d'entendre sont issus des deux premiers recueils de Kenneth White présentés dans l'anthologie. Le premier, paru en 1964, s'intitule « En toute candeur » et le second, « Terre de diamants », est paru en 1977. On a déjà un aperçu des lieux qu'il affectionne, un monde septentrional où dominent le froid et la brume, et aussi cette prédilection pour le silence et le vide, qui le mèneront, vous le verrez dans les poèmes à venir, à se rapprocher de l'art de vivre et de la philosophie de l'Extrême-Orient. Notons également que Kenneth White s'inscrit dans une lignée de poètes découvreurs d'espace, comme le fut en son temps Henri Michaux, et dans son essai intitulé « La figure du dehors », auquel je vais aussi me référer au cours de cette émission, Kenneth White nomme précisément les liens qu'il rattache à cette lignée, parmi lesquels on peut citer, outre Michaux, Rimbaud, Ségalène, Saint John Perse, ainsi que les Américains Thoreau, Whitman et Pound. Poursuivons maintenant nos lectures avec des poèmes toujours issus du recueil « Terre de diamants ». Départ Brest, pour une escale en Écosse, avant d'atteindre le Québec. Brest. Brest, minuit, dans le bar des Trépassés. Encore un coup de mercurochrome. 2. Tout à coup, me voici dans la rue de Glasgow et trois spectres fous m'emboîtent le pas. Lumière de Scalpay. Voici le sommet de la contemplation et nul art ne saurait l'atteindre. Bleu, si bleu, le lointain archipel et la mer qui miroite, miroite. Nul art ne saurait l'atteindre. L'esprit ne peut que tenter de s'y accorder, de s'apaiser, de s'espacer, tenter de s'ouvrir, tranquille, au-delà du monde révélé à lui-même, en terre de diamants, dans la lumière, au-delà des mots. Matin de neige à Montréal. Certains poèmes n'ont pas de titre. Ce titre n'a pas de poème. Tout est là, dehors. Tadoussac. Au large de ce cap, on peut voir souffler les baleines, de grosses baleines du Groenland qui remontent le Saint-Laurent. Tu n'es plus au Canada, l'ami. Tu es là-haut, dans les espaces blancs du cerveau de celui qui fit naufrage dans le néant. Ashawakamik. Là-haut, sur le bord de la baie d'Hudson, entre la rivière Severn et la rivière Winnisk, se trouve un lieu nommé Ashawakamik. En langue crie, cela veut dire « un lieu d'où regarder ». On raconte qu'un vieil homme, au bord de la mort, planta là son wigwam, afin que, mourant, il pût voir les forêts et les eaux et le souffle du grand esprit. Si tu vas là-haut un jour, essaie de voir avec ses yeux. Après-midi d'automne. Grand silence, ici, sur la côte, à quelques milles au nord de la rivière au tonnerre. Je bois ce qui reste de whisky, en regardant les feuilles d'érable brûlées dans la lumière froide. Je dis au revoir à quelque chose, mais Je ne sais pas à quoi. Golfe du Saint-Laurent. À l'entendre, on comprend que, pour Kenneth White, il ne s'agit pas seulement de littérature, mais de vie. Il choisit de pérégriner à la recherche de la simplicité, qui est à conquérir dans la vie comme dans la poésie. White dit que, je le cite, « la plus haute poésie arrive à se dire dans un langage extrêmement clair et simple. » Mais il ajoute aussitôt que « pénétrer dans cette simplicité n'est pas facile. » Voici maintenant un poème assez long en 15 épisodes, comme 15 clichés ou 15 croquis dépeignant l'atmosphère de Hong Kong et les personnes qui y vivent. Il est issu d'un recueil de 1983 intitulé « Scène d'un monde flottant ». Brume chaude et blanche sur la baie, une vieille jonque s'éloigne pesamment. Quelque chose aimerait voir durer cette paix. Mais le jour s'est levé, grue qui tourne, gens qui se pressent, moteurs qui toussent, sirènes qui hurlent, téléphone qui sonne. Hong Kong quitte ses rêves pour faire de l'argent. 2. Coup d'œil sur le marché aux poissons. Le soleil rouge fait chatoyer les gros yeux, les brèmes, les raies, les requins, les barracudas et les serpents de mer, alors qu'une fumée bleue monte des bâtons d'encens allumés par des pêcheurs là pour remercier la reine du ciel de sa bonté et d'un retour sain et sauf au port des parfums. 3. Syllabe cantonaise. Confusion de visages jaunes, côté Hong Kong, côté Kowloon. Le ferryboat, ouvert au vent, traverse les eaux vertes du détroit, parmi les jonques, les chaloupes et les walla walla. Journaux imprimés en rouge et noir et une bouffée de la mer de Chine. 4. Elle est secrétaire particulière d'un directeur, c'est-à-dire demande-t-elle quand elle obtient le poste. 20 ans, jolie comme un cœur, sans chirurgie esthétique, se fait dans les 3 000 $ par mois, un appartement à elle dans la Vallée Heureuse, maîtresse d'un riche docteur du coin, rêve de partir étudiante à Hawaï. La voici, elle aussi, ce matin, sur le ferry. Le vieux mendiant mongol descend de son perchoir dans les collines de Kowloon. Loques noirs, cheveux longs, riant tout seul, foulant le trottoir de ses pieds nus, laissant derrière lui une traînée de vide. Une longue traînée de rire et de vide qui remonte jusqu'à la montagne froide. 6. Dans le bureau d'un gratte-ciel à air conditionné, un millier de caisses d'abalone mexicains arrivent sur une ligne et une tonne de lapins chinois part sur une autre. Pendant ce temps, dans les ruelles, des vieillards font cliqueter leurs pièces de mahjong parmi les relents de friture, la puanteur des légumes pourris et l'odeur fantomatique de l'encens. 7. Dans son petit local encombré de Maudie Street, Wong, le patron, dit Edward, chinois de l'île Maurice, passeport anglais, attend sa prochaine fournée de clients, prêts à leur vendre costumes, montres, valises, je fais tout. Et a proposé son fameux voyage mystère avec ses bateaux fleurs et son bus obscur, où l'on peut palper une petite voisine nue à tant les 5 minutes. 8. Allongé à son aise, le dos contre un pilier de la jetée à Kowloon, Ken Cameron, vagabond, ouvre le South China Morning Post, lit le discours d'un général anglais à un dîner du Rotary, puis jette un coup d'œil sur la page maritime, prêt pour un nouveau départ. Avec deux nouveaux scripts sous le bras, Les Tueurs de Canton, Meurtre à Macao, succès commercial garanti à 100%, Brooklyn Joe, moustache et costume blanc, remonte Nathan Road dans l'après-midi bleu et son amie, la petite cover girl, s'entraîne à fumer la cigarette qui lui donne la nausée. Nous sommes de Hong Kong, pas de politique. 10. Scott Hawkins, écrivain, avec toute l'Asie derrière lui, est assis dans sa chambre d'hôtel à Tsim Sha Tsui, une bouteille de whisky à portée de la main et un carnet neuf sur la table. Sur la première page, on lit ceci. Le visage du vent d'Est. Et au-dessous, roman impossible. 11. À la tombée de la nuit, les rues sont striées d'enseignes au néon. Noir balai d'idéogrammes. Une blonde hollandaise étale des seins moites devant des touristes japonais dans une cave enfumée. Une jeune philippine fait de même pour des marins yankees bourrés de bière. Tandis qu'une jolie petite de Hong Kong, timide et muette, escorte un gros businessman britannique. 12. Ciné à Kowloon. Orange pelée à l'entrée, châtaigne rôtie au charbon de bois, tripes, boulettes de viande et poulet grésillant. Dans l'immense salle, le voisin fume comme un enragé et crache par terre, pendant que les os craquent, que le sang gicle et que les héroïnes gémissent sur l'écran géant. 13. Dans son appartement du 10e étage, tout au fond des faubourgs, des nattes au sol à la japonaise, mais dans un coin, un pipa chinois, Christopher Chung. Je ne suis pas un artiste, je suis un être humain. Se verse un verre de Mao Tai et rêve à Kyoto. 14. Dans le bar, 2h du matin, on ferme. Oscar Eberfeld, 46 ans, célibataire, reluque sans espoir la petite serveuse à la jupe fendue. Suit quelque temps une fille sur le trottoir, les yeux collés à la ligne du slip sous le pantalon, puis regagne sa chambre, inconsolée, avec un magazine illustré. 15. Là-bas, à Aberdeen, un rat satisfait se glisse dans son trou, sous le plancher d'un restaurant des quais. Les derniers joueurs baillent et crachent. Les derniers sampans rentrent au port en tout sautant, tandis que deux jonques massives, la poupe haute, labourent les eaux sombres de la nuit, faisant route vers d'anciens lieux de pêche. 16. Toujours composé par Jean Krah, qui aimait particulièrement la musique de chambre, vous avez entendu avec ses textes un large extrait du premier mouvement de son quintette pour harpe, flûte et cordes. Quant à cette fascination pour l'Orient qu'on retrouve dans beaucoup des poèmes de White, elle résulte bien sûr de ses nombreux voyages et on se rend compte à l'écoute de cet ensemble qu'il ne s'agit pas uniquement d'un intérêt pour la pensée orientale puisqu'il s'attache ici à croquer des personnages du quotidien, un peu comme un peintre réaliserait un ensemble de miniatures autour d'un même thème. Le voyage et l'observation des paysages et des gens a en effet fourni à Kenneth White la matière première de son écriture. Dans son essai « La figure du dehors », il dit ceci. « Le voyage est l'ermite dans la montagne. Voilà les seules images du poète que je trouve supportables. Celui qui fait un travail sur lui-même, celui qui essaie de redécouvrir le monde. » Il n'est donc pas étonnant qu'il emprunte au poète américain une phrase extraite de « Feuilles d'herbe » pour la mettre en exergue de son recueil. J'en ai vu beaucoup, dans la rue ou sur le ferry, et je les ai aimés sans rien leur en dire. C'était le préambule d'une suite en duo pour harpe et flûte. Le recueil intitulé « Le Grand Rivage » a été écrit en 1966, juste avant que Kenneth White ne quitte la Grande-Bretagne pour venir en France. Mais il n'a été publié qu'en 1980. Je vous propose quelques textes pris dans cet ensemble, des textes qui définissent assez bien, selon moi, le parti pris esthétique de Kenneth White. Assurer que la visée vitale de l'art, c'est de jeter à la ronde images, témoignages, preuves d'une puissance de synthèse accordée à la vie et qui préserve la vie contre la solitude, le morcellement, les agressions froides de l'espace et du temps. Et que, si la surface des choses peut offrir plaisir ou dégoût, le dedans des choses donne la vie, sachant que le poème, qui parle du dedans, donne aussi la vie. La beauté est partout, même sur le sol le plus dur, le plus rebelle. La beauté est partout, au détour d'une rue, dans les yeux, sur les lèvres d'un inconnu, dans les lieux les plus vides, où l'espoir n'a pas de place, où seule la mort invite le cœur. La beauté est là. Elle émerge, incompréhensible, inexplicable. Elle surgit, unique et nue. À nous d'apprendre à l'accueillir en nous. Le caillou, rude et sans grâce. La croûte terne et rugueuse se brise et révèle la merveilleuse agate. Le rocher fracturé laisse voir une couche violette d'améthyste. Un principe d'ordre et de beauté se cache au cœur du chaos. La vie se laisse infiniment pénétrer. Car et poème, ceci, tout un monde, dense, de faits et de sensations, qui traverse le thalamus, le ventre du cerveau, et monte sans court-circuit au sommet du cortex, d'où, raffiné par l'abstraction, il redescend langage sur la langue. Et aussi l'effort de saisir et de dire cela, tout le foisonnant univers que l'homme quelquefois si peu rassemble. Mais toujours ce langage exemplaire, subtil comme la fleur, fluide comme la vague, souple comme le rameau, puissant comme le vent, dense comme le roc, unique comme le moi, beau comme l'amour. N'aurions-nous que ces rochers dispersés sur la plage? Le vent ce soir souffle fort et il pleut sur la mer. Combien nous pourrions apprendre? Car vivre dans le concert des rochers est possible. Et celui-là qui connaît parfaitement un seul rocher, dans son être dense et son rapport avec mer et ciel, a sans doute parole plus vraie pour les frères humains que cet autre qui ne cesse de vivre et pourrir dans l'entassement des cités qui ne disent rien de la vie. Comme ce rocher là-bas qui affronte les marées, affleurement de grès gris, sombre, tels les rochers de notre enfance gravés de nos signes, avec de part en part une strate de granit blanc. Comprends cela, poète. Le territoire de l'être. C'était le soir, quand j'arrivais à cette plage, après avoir parcouru 200 km en stop. Je cherchais d'abord un endroit convenable pour étendre mon sac de couchage, à l'abri d'un tronc d'arbre flotté, blanchi par l'océan. Et puis, je me contentais de rester assis là, à écouter le mouvement de la mer, et à regarder les étoiles apparaître jusqu'au moment de me coucher. Pendant la nuit, il y eut un orage, un théâtre d'électricité, ambre et bleu, là-bas, à l'horizon. Et la pluie venait du large par rafales. Quand je m'éveillais, le ciel était miraculeusement clair et j'avais cette côte entière, 10 à 12 kilomètres ininterrompus, tout à moi. Je me mis à marcher. Un. Combien de formes abandonnées, combien de mois détruits, combien d'aurores et de nuits avant que je n'atteigne ce lieu de lumière et de vide où des oiseaux blancs crient une présence. Ou n'est-ce encore qu'un signe ? Deux. Tant de vie vécue pour cette seule flamme. Tant de chemins parcourus pour cet unique point. L'intelligence tremble à l'approche de l'être nu. Les durs chemins de l'esprit mènent à de tels lieux. Toute sensation puissante mène à ces déserts, le destin des mots, à ces silences mouvants. Quatre. Ou n'est-ce encore qu'un signe ? Couvrir mon corps nu de signes et être un signe parmi les signes ou aller au-delà des signes dans la lumière qui n'est pas le soleil, dans les eaux qui ne sont pas l'océan. Toujours le paysage métaphysique, mais de plus en plus abstrait, de plus en plus abrupt, où les plus distante irréalité sont la réalité et la vie, cette écume dansante, cette ligne blanche, cette lisière incandescente qui avance au-delà des phrases et des problèmes. Métaphysique, le physique absolu, l'opaque consumé, la lourdeur dissoute. Sept. Cette flaque d'eau, miroir du ciel et des rochers, sillonnée de coups d'aile, présente mieux mon visage originel que même le visage du Bouddha. Huit. Colonie panique, architrace sur le sable, une envolée blanche dans l'air. Les principes sont là. Mon espèce. Neuf. Corps cosmique. Cosmo-comédie. La philosophie du fou. Toutes les fois que je descends au rivage, je le vois. Un fou de Bassan, vieux comme le monde, laid comme Socrate, l'œil glacé, les ailes fermes dans le vent. C'est cet ange grotesque qui, il y a bien des années, m'écarta des sentiers et des routes fréquentées pour me conduire à un grand vide où le vent est chamanique, où le froid mord jusqu'à l'os. Là-haut, dans ce monde blanc, l'existence semblait difficile, sinon impossible. Mais peu à peu, je me suis acclimatée, naturalisée, découvrant que d'autres avaient connu ces régions avant moi et qu'une culture, si dispersée, si obscure fut-elle, en était issue. Une culture extrême, d'une beauté dure, qui ne s'était jamais effritée, bien fondée dans le terrestre, mais aussi capable d'envol. Quand Nietzsche s'écrit « que le corps se fasse danseur et que l'esprit devienne oiseau », il pense à la culture du monde blanc. Et quand le maître zen dit « le lieu de l'esprit est nulle part, c'est comme la trace des oiseaux dans le ciel », il parle du monde blanc et du chemin qui y mène, le chemin invisible de l'oiseau. 1. Là-haut dans le nord, où le grand vent souffle, il marche. Là-haut dans le nord, où le jour éclate, il marche. Là-haut dans le nord, en pays difficile, il marche. 2. Plus je parcours ces côtes du nord, plus je suis proche de l'Orient. Et si je porte la terre d'Europe dans mon corps, c'est une lumière venue de l'Est que je vois frapper ces pierres. 3. Les collines blanches ont des reflets parfaits. J'ai traversé le Lochaber au cœur de l'hiver pour rencontrer Matsuo Basho sur l'île des Chiens. 4. toute poésie vient de la rencontre avec la beauté. Toute ferveur vient de la vie dans la nudité. Toute vie nue vient de la vacuité. 5. Que ton poème soit comme l'aile du fou, puissante et claire dans son essor, portant le corps embrasé vers la grande lumière. La musique que vous avez entendue précédemment était une pièce intitulée « Recueillement » et elle fait partie des poèmes intimes de Jean Cras. Quand je vous disais que la poésie et, la musique sont sœurs. Quant aux deux textes, ils appartiennent tous les deux au recueil « Mahamudra », publié également en 1980. En 1986, sort « Atlantica », un recueil dont les poèmes sont présentés comme « des mouvements et méditations ». Un recueil d'un auteur tourné vers le large qui affirme la nécessité, je cite, « de prendre ses distances vis-à-vis du fatras et des fadaises, de se mouvoir méditativement dans un espace élémentaire et de pénétrer jusqu'à une conscience première où, à une sensation d'immensité, s'allient quelques perceptions précises, quelques moments exacts. » White appelle cela la pensée chaoticiste, qui prône un art de vivre proche du Tao et du Zen, sans toutefois en faire une nouvelle église. Et il met en exergue du recueil cette très belle phrase de Saint John Perse : « Et la mer au matin, comme une présomption de l'esprit. » J'ai choisi le poème qui s'appelle « La maison des marées » parce qu'il permet d'appréhender ce que Kenneth White entend justement par chaoticisme. La musique, c'est une pièce symphonique de Jean Cras qui s'appelle « Mystérieuse ». La maison des marées. À 8 km de la ville se trouve un lieu dit le Champ Blanc. Deux ailes et une blancheur. L'idéogramme pour persévérance. Des landes, une côte rocheuse et une centaine d'îles. La mer, souvent verte, vert tempête, mais d'un bleu vif parfois. Un bleu à couper le souffle. Et toujours, le brisement des vagues. Paix. Paix dans les brisements. Un lieu, ici, d'ombre et de lumière. Ombres et lumières vite alternées. Le soleil révèle, les nuages voilent. Et toujours une musique. Le vent sur la lande, la mer sur la côte, et un silence. Un cinquième quatuor. Il faut être immobile et toujours en mouvement pour une meilleure union, une plus profonde communion à travers le froid et l'obscur, le vide et la désolation, le cri des vagues, le cri du vent, les vastes eaux du Pétrel et du Marsouin. Un chemin bordé d'ajoncs. Cette maison de pierre, tapissée d'un millier de livres, qui parle d'idées, d'îles, selon un ordre encore très confus, vaguement senti. Chaoticisme. Où sommes-nous? Où allons-nous? L'un des grands défricheurs des broussailles de l'esprit dit qu'il s'agit d'avancer vers un lieu neuf, une clairière, nous dirons ici Atlantica, un souffle, une ampleur, espace pélagien, ce qui fut écarté, délaissé quand les routes furent construites, et les codes de l'ordre enfoncés dans les crânes. Ce qui fut écarté, devenant de plus en plus faible, de plus en plus fou, présent encore dans le cri des mouettes, dans le fracas des vagues, dans ses ombres, ses lumières. Mais qui entend? Qui voit? Qui sait dire? Une autre terre mentale. Me voilà donc sorti dans le territoire, marchant dans le blanc du matin, marchant, observant, écoutant. Fleurs jaunes qui dansent au vent, un corbeau sur une branche qui croasse, le ruisseau qui reflète le ciel dans ses rides gris-bleues, plage blanche, varech, la démarche hautaine des huîtriers, un crabe bleu qui tâtonne dans une flaque, coquille luisante. Les notes s'accumulent vers une écriture qui vise plus haut que l'art de faire des vers avec de plates généralités et des jérémiades. Archipel atlantique, le sentiment de quelque chose à recueillir. L'esprit tâtonne comme un crabe bleu dans une flaque, danse au vent, reflète le ciel dans son flux, vole haut, laisse des traces sur le sable, gît déposé au hasard sur la laisse de haute mer. Revient aux livres, aux nombreux manuscrits. Jumelle dirigée sur le toit rouge de l'ancienne sardinerie, à la pointe du promontoire. Question d'homologie. Un lieu pour travailler. Travailler, tout élaborer. Un lieu pour accueillir une étrangeté. Cette étrange activité. Philosophie? Poésie? Pratique? Théorie? D'une accumulation de faits vers un poème pluriel. Au-delà du général. Le recueil qui paraît en 1997 s'appelle « Les rives du silence ». Un silence dont l'écho se déploie dans l'esprit de celui qui a fait assez de vide en lui pour l'accueillir. Il y a du haïku dans ce livre, dans l'esprit plus que dans la forme. Ce qui importe, c'est d'être là, de regarder, de sentir, et ainsi de s'ouvrir au monde. C'est ce qui illustre parfaitement le texte que vous allez entendre et qui a pour titre « Finistera, ou la logique de la baie de Lannion. C'est dans la forme des caps, c'est dans la façon qu'ont les vagues de se briser sur la côte avec un long élan chpouf contre les rocs. C'est dans la lumière changeante, c'est dans le clair silence de ce matin d'avril. Là-bas, au Yodet, qui fut base romaine avant d'adopter la syntaxe du christianisme, on peut voir le légué qui rappelle la Loire ainsi que toutes les autres eaux ligures, courir vers son estuaire dans l'éclat bleu-vert de ses eaux. Après cela, marcher sur le chemin côtier depuis, disons, la vallée de Goas-la-Gorne jusqu'à la plage de Port-Mabot, c'est aller entre fleurs et flots, cherchant quelle blancheur ajouter à ces blancheurs, les avancées qui viennent à l'esprit, sont le Dourven, au large, le naufrage de l'Azalée, Biit, qui cache à la vue l'île de Milo, à qui Brandan rendit peut-être une amicale visite, et tout au loin, perdu dans la brume et la lumière, Roscoff, la fin des terres. Épines, pins et bruyères, ajoncs et genêts, dévalent vers l'anse sableuse des plages, et c'est un grand arc de terre indiquant l'Atlantique qui s'étend là devant soi. Je revois ce jour il y a quelques années où, venu ici pour la première fois, adossé à un pin au-dessus de Port-Mabot, je lisais Piron dans la version du XVIIe siècle d'Estienne. Cet ouvrage traite-t-il de choses sérieuses ou de noises ? Je suspends mon jugement. Quel en est le sujet ? Je ne comprends pas. Qu'as-tu défini ? Je ne définis pas. Que fais-tu donc ? Je me contente de regarder. De regarder ce lieu, de regarder dans ce lieu et tout à la fois dans les circuits de mon cerveau. Dans les aubes de l'été, dans les soirs dorés de l'automne, dans les brumes glacées de l'hiver. À l'instar de ces vieux taoïstes qui fondèrent l'académie des goélands. Un oiseau et un œil. Un oiseau et un œil. L'idéogramme pour monastère. Une académie sans mur. Contemplation active. Pas d'idéaux, pas d'idoles et pas de projections trop hâtives, trop personnelles, trop poétiques. Plutôt des reconnaissances de longue portée dans l'espace et dans le temps. En homme qui a étudié la grammaire du granit, j'ai marché en ce lieu. En homme qui voudrait faire l'équation entre paysage et pensée, j'ai marché en ce lieu. En homme qui aime les voix et les vagues du silence, j'ai marché en ce lieu. Qui sait ? Peut-être dans les temps futurs, un peu après la dernière catastrophe, un touriste curieux venu de l'espace marchera-t-il sur ce même sentier, conscient de mon fantôme ? Toujours ici à suivre les lignes, toujours à regarder dans la lumière. Dans la nuit de Nashvac. Nuit sur le Labrador. Myriades d'oiseaux dans le demi-jour. Posés, apaisés. Seuls quelques rares envols encore. Là-bas, ce passage de mouettes de Sabine. Serait-ce une mort ? Ou le prélude à une autre vie ? La question trop lourde perturbe ces ondes de silence. Plutôt attendre, jouir de ce demi-jour. des langues de mer venues du nord, remontant les baies et les fjords, lapant le roc archéen, diront le poème au-delà des questions. Ils dorment, les canards, les oies, les pluviers, tous dorment. Cette terre, un immense sanctuaire. Relâche sur le long chemin des migrations. Relâche dans ce silence entre l'ancien monde et le nouveau. Pénétrer plus loin, toujours plus loin, dans un monde ni nouveau ni ancien. Un monde ni ancien ni nouveau. Suivre jusqu'au bout le chemin des oiseaux. L'aube point dans le cri de l'oie sauvage. Dernier recueil de l'anthologie, il s'appelle « Le passage extérieur ». Dans le prologue, Kenneth White dit ceci. La philosophie du passage prend la relève. La philosophie du passage prend la relève de la philosophie de l'être. Mais le dernier mot du passage extérieur, c'est la poésie. Et en particulier la géopoétique, puisqu'elle projette l'homme en dehors de l'humain. Ainsi, Kenneth White prône une poésie qui invite à se débarrasser de la fiction, des bavardages et des commentaires, à éviter toutes les fantaisies de l'imaginaire pour être avec la terre, rien qu'avec la terre. Le dernier poème de l'anthologie s'appelle « Deux lettres de Bretagne ». Sur la route de Gwenadur. Sous un ciel, aux nuages pressés, l'automne prend fin. La mer, là-bas, gris-vert, piquetée d'éclats blancs. Dans une ville bretonne, au volet bleu, l'auberge du vent d'ouest, Marilou Floch propriétaire. Galette de blé noir, couscous maison, 5 euros la part. Je reste là un moment, à écouter le murmure des conversations et à contempler le ciel. Puis repart sur la route de la mer, la vieille route de Gwenadur. En ce lieu maintenant, colloque à La Hague. En 1900, l'Himalaya avait 10 000 glaciers, à présent 2 000 de moins. Au cours du dernier siècle et demi, la masse glaciaire des Alpes s'est réduite de moitié. Les glaciers de l'Alaska ont diminué de 20% ces 50 dernières années. Ils disent que la planète se réchauffe, ils prévoient des tempêtes et des inondations. De nombreuses terres basses vont disparaître. Assis en ce lieu, sur un promontoire rocheux de l'Europe, je regarde passer les nuages et j'écoute la rumeur de la mer. J'aimerais terminer cette heure en compagnie de Kenneth White avec un court extrait de « La figure du dehors », donc son essai, qui résume de belle manière ce qui est au cœur de son écriture. L'acte d'écrire n'est pas un discours. Le discours mène logiquement quelque part. Si l'acte d'écrire devient discours, ce qui se voulait ouverture, sur un espace blanc, sur un dehors, ne peut amener en fin de compte qu'à une conclusion de plus. Mais en poétique, il n'y a pas de conclusion. Absolument rien à cataloguer, seulement une nudité et la figure d'une danse. C'est en dansant la danse que le danseur avance en nudité. Voilà de quoi méditer et je ne peux pour ma part que vous encourager donc à lire la poésie de Kenneth White, notamment grâce à cette anthologie publiée chez Gallimard. Notre prochain rendez-vous radiophonique sera le jeudi 19 octobre. Et avant cette date, retenez celle du jeudi 28 septembre à 20h. Je serai au Temps des Noyaux, bar associatif, au 14 rue du Docteur Hébrard, avec quelques complices pour faire entendre la poésie d'une dame que j'aime beaucoup, la Polonaise Wisława Szymborska. À bientôt! Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.